Le sol, il est où ici?
Donc, nous, nous travaillons hors sol. Les racines sont à l'air, donc elles pendent.
Donc il n'y a même plus de fibres de coco, il n'y a plus rien, elles sont dans rien du tout.
Alors, la graine, en fait, est germée dans un support. Ce sont les tables de culture qui servent de support. Au-dessus poussent les salades ou les herbes aromatiques. Et en dessous, les racines se développent à l'air où elles sont irriguées non-stop.
Nos sols sont-ils en péril?
Laurence Di Félix, Véronique Marty.
Connaissez-vous l'aéroponie, ou comment faire pousser des légumes sans aucune terre? Avec juste un brouillard d'eau précisément dosé en éléments nutritifs pour la plante, comme l'azote, le phosphore, le potassium et autres sels minéraux, de la lumière et une température idéale. Pas de fongicides ni d'herbicides pour ces cultures sous serre qui ne sont pourtant pas labellisées bio, car en Suisse, il faut avoir poussé sur du terreau pour être bio. Une start-up développe en ce moment à Molondin, au sein de l'agropole du Nord Vaudois, une serre prototype qui produit des salades en aéroponie dernier cri. Nous rencontrerons ses responsables dans l'épisode d'aujourd'hui, entièrement consacré à la culture hors sol. Mais tout d'abord, rendez-vous à Yverdon, auprès de Roland Stoll, grand producteur de tomates. Comment répondre à une demande constante de ce fruit qui ne mûrit chez nous que 3 mois par année? En le cultivant sous des serres vitrées, chauffées et dans un substrat organique fait de fibres de coco ou minéral fait de roches volcaniques. Plus de terre et des tomates toute l'année ou presque. Est-ce moins ou plus écologique? Voici De lumière et d'eau fraîche. C'est un reportage de Catherine Erard. Il est réalisé par Jean-Daniel Mottet.
Alors le sol ici, le sol on le voit par terre de la serre. Il y a toujours la terre. Que si un jour on veut recultiver dans le sol, c'est réversible. Mais ici on a des cultures de tomates hors sol, où le sol est ce sac qu'on appelle un pain. Et ici, en l'occurrence, on travaille avec de la laine de roche, qui est un substrat idéal pour de la culture hors sol, parce que c'est des petits filaments, où autour de chacun de ces petits filaments, il y a de l'eau et de l'air et la solution nutritive pour que la plante puisse l'absorber facilement. Et ce sol a l'avantage, ce substrat, c'est qu'après chaque culture, on peut le changer et on n'a pas de maladie de sol. Donc on n'a pas besoin de faire des interventions de traitement ou de choses comme ça. On n'est pas dans le sol. Du fait qu'on récupère encore l'eau, l'avantage qui est très important, c'est qu'on récupère aussi la solution nutritive, les éléments nutritifs qu'il y a dans cette eau et qu'on remet à la plante. Donc il y a rien qui se perd, il y a rien qui part de les nappes phréatiques. C'est vraiment très très propre.
On a devant nous, Roland Stoll, des magnifiques plants de tomates. Il y en a sur des centaines de mètres devant moi. Là, c'est les belles tomates en grappe qu'on achète au magasin. Là.
Ça, c'est de la tomate en grappe, exactement. On voit que sur la première grappe, la pollinisation n'a pas été toute super. Mais on voit que les grappes suivantes, elles sont vraiment parfaites.
Un des problèmes qu'on cultive aussi en plein champ, c'est les insectes, les ravageurs. Alors, on a compris que pour le sol, c'est un bon système, puisque finalement, vous changez chaque année le sol, donc vous n'avez pas ce problème-là. Mais pour les insectes qui pourraient être nuisibles, comment vous faites?
Alors, la problématique des parasites qu'on a dans une serre, on fait tout ce qu'on appelle la lutte intégrée. C'est-à-dire qu'on a des parasites, des pucerons, des mouches blanches, des araignées, différents parasites. Enfin, il y en a beaucoup, malheureusement. Et pour chacun de ces parasites, on introduit dans la serre des prédateurs.
Là, on voit, j'ai vu des insectes qui volent. Je ne sais pas si c'est des pollinisateurs, peut-être.
En l'occurrence, c'était des pollinisateurs, c'est des bourdons.
Ouais.
Mais on peut voir ces insectes. Par moments, c'est difficile d'avoir ces mini-guêpes. Il faut être très calme de la serre.
Chez moi, ça m'arrive de cultiver des tomates dans mon jardin. Ça pousse. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, on s'est mis à cultiver les tomates majoritairement sous serre? Parce que la plupart des tomates qu'on mange qui viennent de Suisse, c'est sous serre. Quel pourcentage?
Alors les tomates qui proviennent de sous-serre à l'heure actuelle, qu'on consomme en Suisse, qu'elles viennent de Suisse ou de l'étranger, tout vient de sous-serre. Aujourd'hui en Europe, il n'y a plus que des cultures sous-serre, même au Maroc. C'est l'évolution de la consommation des consommateurs. Il y a 50 ans, je dirais à peu près, les maraîchers cultivaient des tomates en sol à l'extérieur. Ça veut dire qu'on avait une production de tomates à peu près du mois de juillet à début septembre ou septembre, comme dans les jardins familiaux aujourd'hui. Et après, ben disons, comme là, il y avait une demande, on a commencé à cultiver de la tomate sous des tunnels plastiques, après sous des serres un peu plus grandes, pas forcément chauffées. Ça a aussi rallongé la période de production, le printemps et l'automne. Et aujourd'hui, on est dans des serres chauffées parce que la production, ben, elle était rallongée, comme je vous l'ai dit, du mois de mars-avril à novembre en Suisse. C'est à peu près la majorité de ce qui se fait dans les serres.
Quel est le rendement, la différence de rendement entre une production en plein sol et puis ici, où on est sous des serres, où tout est aligné, serré?
Alors, il faut savoir qu'une production de tomates en sol, comme ça se faisait à l'époque, on va faire à peu près des rendements de 30-40 tonnes à l'hectare. Dans une serre comme celle-ci, on va faire des rendements entre 500 et 600 tonnes à l'hectare. Donc on va dire entre 15 et 20 fois plus. Bon, la période est beaucoup plus grande aussi, mais disons la différence est vraiment énorme par rapport à une culture de tomates en sol.
On peut aller voir les nutriments que ces plantes reçoivent, c'est quoi ?
Oui, alors on va aller regarder ça, je vais vous montrer ça.
C'est impressionnant, hein, la grandeur de cette serre, le nombre de tomates.
C'est la plus grande, ça c'est la des plus grandes serres en Suisse. Voilà.
Il y a même des vélos, hein, pour se déplacer dedans là.
Ouais, si vous devez vite aller au fond de la serre, ça aide.
Alors là, on sort de la serre. On arrive plus dans la partie technique.
Alors, hop là. On va rentrer dans le local technique où on prépare les solutions nutritives. On va peut-être attendre juste quelques secondes parce que les machines travaillent, ça fait pas mal de bruit.
Vous avez ici des palettes de produits.
Alors ici, on a des palettes de produits, de différents éléments nutritifs que les plantes ont besoin. Je vais essayer de vous prendre une fiche de préparation pour vous montrer.
Bonjour.
Par exemple, dans un bac de 2000 litres comme il est ici, il y a 8 kg de chlorure de potasse, il y a 225 kg de nitrate de chaux, etc. Il y a, je dirais, environ 300 kg d'engrais dans 2000 litres d'eau. Et cette eau va être diluée à peu près, ces 2000 litres vont être dilués à peu près 1000 fois.
Par rapport à une tomate qui pousse en plein champ, est-ce que les tomates qui poussent sous serre consomment moins d'eau?
Oui, alors les tomates sous serre consomment vraiment beaucoup moins d'eau. Grosso modo, 13 litres, 14 litres d'eau pour produire 1 kg de tomate avec ce système. Plus de 200 litres pour une culture en sol.
Alors, Roland Stoll, là, on se dirige pour aller voir le chauffage parce qu'un des gros problèmes, des grosses questions qui se posent aussi pour les serres, c'est comment les chauffer.
Pendant longtemps, tous les producteurs ont utilisé du mazout pour chauffer. Après, on s'est rendu compte que le gaz était beaucoup plus propre, donc on a tous passé pratiquement au gaz. Et puis aujourd'hui, ben voilà, on a des demandes de la part des grands distributeurs de diminuer les émissions de CO2, qui est un challenge pour tous les producteurs. Ça sera difficile peut-être pour certains de le réaliser. Et nous, on a un projet de faire de la géothermie pour chauffer les serres. Mais je vais vous montrer un peu comment fonctionne le système de chauffage.
Alors, on revient entre les plantes tomates, ici. Hein.
Ici, on utilise du chauffage au gaz dans cette serre. Et on utilise le chauffage, on a séparé les besoins de chaleur qu'a la serre et les besoins de CO2 qu'ont besoin les plantes. dans la serre, si on n'ajoutait pas de CO2, le taux de CO2 va tomber très très rapidement à pratiquement zéro. Et c'est comme si vous, on vous coupait la respiration.
Plus d'oxygène pour moi.
Presque ça. Donc nous, on va apporter du CO2 par rapport à ces petits tubes qui se trouvent là derrière moi. Je vais vous montrer, ils sont micro-perforés.
Ah oui, c'est un tube en plastique.
L'idée de demain est de chauffer avec de la géothermie. Mais pour les plantes, on devra quand même apporter du CO2. Donc on va racheter du CO2 qui provient principalement d'usines qui émettent du CO2, qui le captent et qu'on va utiliser à ce moment-là. Donc c'est là qu'on va vraiment faire une diminution des émissions de CO2.
Donc on va rentrer dans le sas, une charlotte.
Ok.
Voilà.
Merci.
Sur la tête.
Je vais mettre tous les cheveux dedans. Ça va comme ça?
Ça va, c'est bon. Parfait, merci.
Okay,
on va se laver les mains, désinfecter les mains rapidement. Voilà. Donc là, nous sommes à Molondin, sur le site de l'Agropole, et nous sommes effectivement à l'entrée de la serre Combat Farm, Combat Group. On va rentrer dans une serre qui est une culture donc hors sol, en environnement climatique contrôlé. On contrôle tout ce qui est intrants, corps étrangers, donc on doit s'assurer qu'il n'y a pas de microbes ou de contamination externe qui rentre dans la serre.
On peut entrer.
Et on peut rentrer.
Le sol, il est où ici?
Donc nous travaillons hors sol. Les racines sont à l'air, donc elles pendent. Les salades sont mises sur des tables de culture avec les racines qui pendent.
Donc il n'y a même plus de fibres de coco, il n'y a plus rien, elles sont dans rien du tout.
Alors la graine en fait est germée dans un support pour pouvoir effectivement faire la germination et grossir. Mais après, ce sont les tables de culture qui servent de support. Au-dessus poussent les salades ou les herbes aromatiques et en dessous, les racines se développent à l'air où elles sont irriguées non-stop.
On va aller voir ces racines.
C'est clair que nous, on est dans l'agriculture de demain, c'est-à-dire qu'on recherche des solutions où, on n'a pas de déchets, on ne rejette rien dans les sols, mais qu'on doit aussi nourrir le monde.
Il y a quelques marches, est-ce qu'on peut monter parce qu'elles sont un peu en hauteur, vos salades? Est-ce que c'est possible de monter, vous voir?
Moi, je voulais simplement plutôt vous montrer.
Alors, je vous suis.
Peut-être plus intéressant. Donc là, on ouvre pour voir, donc tout à coup, derrière ces panneaux, vous voyez les racines. Donc,
on voit les racines qui pendent, hein, qui sont blanches. Voilà, qui
sont blanches.
Y a de l'humidité. Voilà, au sol, ouais, je vois le chariot qui approche.
Le chariot qui approche, qui va donc pulvériser ce brouillard nutritif auprès des racines.
On en reçoit même plein.
Un petit peu, c'est très léger.
C'est une petite brume, voilà, c'est ça.
C'est vraiment une petite brume, c'est ça. Voilà, c'est une petite brume. Et donc l'eau qui ne s'accroche pas, on va dire, aux racines, retombe et on le récupère. Et on recycle à 97% de notre eau.
Alors, on voit toutes vos salades, les plantes aromatiques. Devant nous, on a du persil, on a même quelques poireaux. Ça, c'est quoi? C'est
du persil, on a de la menthe aussi par là-bas. On a des laitues, on a des feuilles de chêne. En fait,
elles sont magnifiques, hein. Franchement, vos salades, elles sont toutes... il faudrait quelle surface, Serge Gander, pour produire tout ça si on était en pleine terre?
Nous, on produit environ 30 fois plus... en pleine terre, en plein champ. Donc aujourd'hui, on parle de moyenne en plein champ dans des conditions climatiques normales, donc environ de 30 tonnes hectare an. Bien sûr, si vous avez de la grêle, des mauvaises conditions climatiques, ça peut baisser. Nous, aujourd'hui, toute l'année, on est au-dessus de 700 tonnes minimum par an. Et on peut cultiver toute l'année la même salade, je dirais, de qualité égale.
Et ça, c'est encore plus que dans des serres traditionnelles.
Dans les serres traditionnelles, effectivement, on peut cultiver un petit peu aussi pendant l'hiver avec des cycles qui sont beaucoup plus longs. Donc on est probablement 2 voire 3 fois plus qu'en serre traditionnelle.
Au niveau des déchets, parce que là on voit que des belles salades, on a l'impression qu'il suffit de prendre un petit couteau, de les couper et c'est bon.
C'est exactement ce qu'on va faire. On va récupérer un petit couteau et on va découper. Là nous avons une litue. Et là vous avez un coup de couteau et vous avez vu, nous avons perdu, on va dire, 2 microfeuilles et tout le reste est mangeable. Donc nous avons, au niveau de la coupe, plus de 95% d'efficacité de matière qu'on garde, c'est-à-dire que 5% de pertes. Si on regarde sur toute la chaîne alimentaire, traditionnellement, la salade est un élément qui perd jusqu'à 70% de matière du champ à l'assiette du consommateur. Il y a 0 pesticide, du tout. Il n'y a aucun traitement sur nos salades, donc elles n'ont pas besoin d'être nettoyées. On va essayer. Belle salade à la main. On va dans le cœur et là, vous avez...
Je prends une petite feuille, là.
Elles sont croquantes. Elles sont bonnes.
Serge Gander, on est quand même dans une serre. Ça veut dire que vous devez chauffer cette serre. Là, il y a quand même un bilan de CO2.
Alors, ça dépend des saisons. Pendant l'hiver, effectivement, on chauffe un tout petit peu pour garder une température moyenne, ambiante, optimale, pour continuer la croissance normale de la salade ou de la plante aromatique. Le bilan CO2, je pense qu'il faut voir sur toute la chaîne alimentaire. On est encore en hiver, vous avez mangé une salade qui a juste 30 jours, qui a été produite localement, pas de transport. Donc déjà, normalement, 5 à 6 mois par an, dans l'Europe, je dirais moyenne ou nord, importe des salades qui font 2, 3, 4, 5 jours de camion. Après, il y a toute la question de transformation, de nettoyage, qui a besoin aussi beaucoup, normalement, de ressources énergétiques. Donc le bilan carbone complet, en fait, est extrêmement concurrentiel, on va dire, par rapport à ce qui se passe quand on importe, voire par avion, des herbes aromatiques du Moyen-Orient ou d'Afrique.
On a presque honte de laisser cette belle salade, hein, faut quand même la...
Rassurez-vous.
Alors, on va la prendre avec nous et on descend...
Je vais la mettre là pour l'instant.
Serge Gander, ici, on est dans une serre qui est encore une serre pilote d'une certaine manière. Vous faites encore des tests, des essais. Comment vous voyez les choses dans un horizon, disons, à 5-10 ans, avec toutes les questions qui se posent aussi au niveau des changements climatiques? Est-ce que c'est l'avenir, d'une certaine manière, ce type de culture en aéroponie?
Je pense que c'est une des solutions pour nourrir le monde, en fait. En 2050, 80% de la population mondiale habitera dans des villes. Ils auront besoin de produits et en principe, on veut des produits frais. Frais veut dire produits localement, qui n'ont pas 3-4 jours de camion, qui n'ont pas 2 jours d'avion. L'objectif de notre projet, notre technologie, n'est pas de remplacer toutes les terres arables, mais c'est de libérer les terres arables pour les produits qui ont besoin de terres et d'utiliser des terrains qui ne sont plus utilisables aujourd'hui pour produire des produits qui sont attendus par les consommateurs. On veut tous une salade fraîche, même en hiver. On est vraiment dans une optique d'apporter une solution complémentaire à l'agriculture qui est en terre.
Oui, bonjour, Catherine Hérard de la RTS. J'ai rendez-vous avec Pascal Olivier, c'est le responsable roman pour BioSuisse. Je ne sais pas si je suis au bon numéro.
Non, ça ne fait rien, je vous ouvre.
Merci.
Vous pouvez entrer.
J'ai rencontré il y a quelques jours Serge Gander à Combat Group et on a passablement discuté pour savoir si c'est... salade, est-ce qu'elle pourrait pas avoir le label bio? Or, on sait que le label bio, il est réservé à la production en sol et pas au hors sol. Alors, il a voulu vous faire part d'une réflexion. Je vous propose de l'écouter. Hein. Je l'ai juste là sur mon téléphone. Alors, attendez.
C'est pas sol ou hors sol, c'est sol et hors sol. Parce qu'il y a des produits qui ont besoin du sol. Il y a des agricultures type bio qui sont en sol et qui ont une performance très très bonnes, avec des résultats de santé, de qualité de produits qui sont très bonnes. Et il y a des produits hors sol, qui ont des qualités nutritionnelles aussi bonnes. Donc les deux ont les mêmes qualités pour le consommateur. Les deux devraient avoir un label durable. Donc un label agriculture durable, ça je crois beaucoup.
Alors Pascal Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'un label agriculture durable qui permettrait d'intégrer des nouvelles formes de culture qui s'avèrent quand même assez respectueuses de l'environnement ?
En effet, ce que proposent ces maraîchers qui cultivent des salades, par exemple, hors sol, pour nous, elle correspond tout à fait à une demande aussi de l'industrie agroalimentaire d'aujourd'hui, qui veut peut-être toute l'année des salades, effectivement, ou toute l'année certains produits, et calibrés avec un aspect irréprochable. Et pour ça, on peut considérer ces deux sortes d'agriculture complémentaires. Là où je rejoins pas tout à fait notre intervenant en avance, c'est sur l'aspect durabilité, car comment peut-on estimer que ces ressources, comme des salades, sont produites de manière durable, alors qu'on utilise en premier lieu beaucoup d'énergie, du pétrole et du plastique et des néons. Si je peux me permettre une image, c'est vraiment on pourrait faire la comparaison avec quelqu'un qui est vraiment dans un salon, bien allongé sur un canapé confortable, avec l'air climatisé, avec même des injections dans les bras pour le nourrir, et puis qui regarde une télévision. Et puis ça, c'est le modèle hors sol. Et puis il y a le modèle bio, qui est peut-être un marcheur qui veut aller se rendre à un point, puis qui doit passer par un col, qui va avoir chaud sur un côté, qui va avoir froid de l'autre, qui va peut-être passer un torrent, qui va remonter, qui va transpirer, qui va être vraiment en contact avec la nature. Et c'est ces deux modèles-là qui s'opposent un petit peu dans ce débat.
Monsieur Gander, avec sa technique, il produit des salades qui sont quand même d'excellente qualité et qui sont extrêmement rentables. Enfin, pour l'instant, bon, il développe, ça, il y a encore des coûts de développement, mais quand même, il a une productivité au mètre carré qui est impossible à avoir en sol, avec très peu de déchets, etc. Face à des salades comme ça, l'agriculture bio, comment il fait pour régater ?
L'agriculture bio n'est pas basée justement sur des serres en verre, sur du chauffage de serres, par exemple, peut-être à géothermie dans un cas minimum, mais surtout avec des centrales nucléaires. N'est pas basée sur des néons pour avoir des plantes toute l'année, mais basée sur le soleil, sur le travail des racines dans un sol sain. Et on pense fortement que ces légumes qui ont poussé dans ces conditions-là auront une haute valeur nutritive. On va pas parler de vitamines, de protéines ou de... Je pense que ça, M. Gander, par exemple, est totalement au courant et il a raison de dire que c'est similaire, c'est des produits similaires. Par contre, si on s'intéresse à des valeurs intrinsèques plus intéressantes pour l'être humain, comme les antioxydants, par exemple, là, plusieurs études montrent qu'il y a des différences significatives.
Pascal Olivier, face à ces questions qui se posent par rapport au sol arable, à leur qualité, à leur disponibilité aussi, le hors-sol, c'est une alternative ?
Ça peut être une alternative pour moi, effectivement, dans des milieux urbains ou périurbains, des énormes mégalopoles, mais je pense là à vraiment des villes énormes, pas de ce qu'on a en Suisse, mais plutôt à des métropoles du genre Mexico ou Londres, où là, ça a une raison d'être, à mon avis, d'être tout proche des clients, d'avoir des circuits aussi courts, avec de la matière fraîche. Par contre, pour la durabilité des sols agricoles, là, je pense honnêtement qu'on doit baser plutôt notre vision sur des processus renouvelables, où on travaille avec l'eau, avec le soleil, avec le sol qui se renouvelle en permanence, donc en apportant des matières organiques, en récoltant des légumes, par exemple, et pas forcément se croire à la toute-puissance de la technologie, avec chaque fois une machine en plus, un robot en plus, qui va lui aussi consommer de l'énergie grise pour être fabriqué et détruit après, ou recyclé après. Et ces aspects-là, à long terme, sont extrêmement importants. Je rappelle peut-être juste qu'en agriculture dite occidentalisée, pour produire une calorie alimentaire, on en a besoin entre 3 et 50. Et les modèles dont on parle, les modèles d'agriculture hors sol, irrigation avec des fertilisants chimiques, avec illumination aussi, chauffage des serres, on est plutôt à 30 calories investies pour une récoltée pour le consommateur.
Vacard.
Donc on voit très bien qu'à long terme, ce modèle n'a finalement pas d'avenir.
Des salades, mais aussi des tomates, des concombres, des aubergines, des poivrons peuvent être cultivés en aéroponie. Est-ce l'avenir de nos cultures maraîchères ? Votre avis nous intéresse. Appelez-nous au 058 236 236 0. Et vous, êtes-vous pour ou contre la culture hors sol ? 058 236 236 0.
Vacarme, Véronique Marty, Laurence Di Félix, Catherine Erard, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux et Jean-Daniel Mottet.
Demain, nous serons au cœur du grand potager de la Suisse, le Zeeland.
Les sols se dégradent rapidement. Le producteur, il doit labourer, il doit avoir une force de travail qui n'est pas en accord avec la lenteur des processus de régénération. Mais ça, c'est notre société qui va à cette vitesse. Hein. Et au niveau mondial, c'est un peu la même chose. Il faut vite aller produire, il faut produire à quelque part, puis ensuite, ça ne fait rien. On pense qu'on peut aller ailleurs. Mais il arrivera un moment donné où il n'y a plus le ailleurs. Les terres émergées, elles ne sont pas extensibles. Hein.
Au secours, mon humus disparaît. C'est un reportage à suivre demain dans Vacarme. Merci d'être à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi.
Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante.
Cette semaine, justice et écran.
Tous nos témoins sont soumis à une forte tension.
De Nuremberg.